Vous avez dit auparavant que la parole de Dieu est claire, car Dieu est notre éclaireur. Dieu nous précède, et donc nous avons ce privilège extraordinaire d'avoir quelqu'un qui nous précède. Jean-Paul en a parlé, l'Esprit nous précède, nous revêt, nous remplit, nous conduit, mais aussi sa parole nous précède, c'est-à-dire qu'une parole vivante, la parole de Dieu, a cette... avantage et cette particularité d'être une parole prophétique. C'est intéressant parce que l'homme naturel, à cause de l'insécurité et aussi parce qu'il veut être comme Dieu, aimerait beaucoup connaître les choses d'avant, en avance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont aller voir des devins, ils vont essayer de lire l'avenir. Mais nous n'avons pas besoin parce que Dieu nous donne suffisamment ce qu'il faut pour connaître l'avenir. Donc on en sait suffisamment pour être averti, parce que quand on est l'ami de Dieu, Dieu parle à ses amis, et donc il annonce les choses qui doivent arriver, et en même temps il ne dit pas tout pour que nous puissions continuer de marcher par la foi, de nous attendre à lui, et lui reste souverain dans les détails, je dirais, de la manière dont les choses s'accomplissent. Et donc, nous sommes des privilégiés, mais le problème c'est que nous n'utilisons pas des fois correctement ce privilège, c'est-à-dire que nous n'étudions pas les Écritures ou les Écritures ne sont pas prêchées correctement. Pourtant, Romains 15, 4, il est dit « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Vous savez, quand on lit le livre des Actes, en particulier, lorsque nous lisons les épîtres des apôtres qui ont été persécutés, et lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église et des mouvements spirituels qui ont été persécutés tout en gardant la foi, nous voyons qu'à chaque fois, l'espérance demeurait. C'est-à-dire que les persécutions n'enlèvent pas l'espérance. Les épreuves n'enlèvent pas l'espérance. Les difficultés n'enlèvent pas l'espérance. Les drames n'enlèvent pas l'espérance. La mort n'enlève pas l'espérance. Donc si nous avons du mal à expérimenter l'espérance chrétienne, ça sous-entend, selon ce verset, que nous ne sommes pas motivés par les Écritures, nous ne sommes pas consolés par les Écritures, nous ne sommes pas vivifiés par les Écritures. Nous n'espérons pas grâce aux Écritures, c'est-à-dire que nous privons du privilège qui nous a été donné au travers de la Bible. Et ça, c'est un indicateur et un baromètre pour savoir où nous en sommes spirituellement. Souvent, on a tendance à mesurer peut-être pas toujours, mais en tout cas, oui, peut-être on jauge notre spiritualité en fonction de nos larmes. Ah, si je suis triste, c'est que je ne suis pas spirituel, etc. Non, il y a d'autres critères. On peut pleurer, mais espérer. On peut vivre des drames et en même temps avoir confiance en Dieu. On peut nous faire du mal et en même temps pardonner. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité dans la vie chrétienne, et la puissance de l'Esprit en nous le permet, de vivre ce qui peut apparaître comme des contradictions. Et c'est ça qui fait le fondement de notre vie chrétienne en réalité. C'est une vie surnaturelle, c'est pas une vie que l'on peut imiter. Certains essayent d'imiter le christianisme, et ils y arrivent, mais on peut pas imiter Christ. Il y en a qui imitent l'Église, mais ils ne peuvent pas vivre la pierre vivante qu'ils sont censés être. On peut copier des formes, mais on n'aura pas la puissance. On peut même imiter la piété, mais ne pas avoir la puissance, en réalité, la puissance de Dieu. Je vous avais parlé du fait qu'en Jean 6, certains des disciples de Jésus, qui se sont éloignés après, lui ont dit « mais tes paroles sont dures à entendre ». Mais il faut savoir une chose, c'est que Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Et la vérité, justement, elle peut s'exprimer pleinement lorsqu'il y a la grâce. Parce que la vérité révèle notre péché, elle révèle nos manquements, mais s'il y a la grâce, ça nous permet de marcher dans la vérité. S'il n'y a pas la grâce, et que je reçois la vérité, je vais marcher dans la culpabilité, non pas dans la vérité. Ce qui n'est pas la même chose. La religion peut très facilement nous faire marcher dans la culpabilité. Mais vivre dans la vérité, c'est vivre en fonction des attributs de Dieu et de sa sainteté, alors que nous sommes encore des êtres pécheurs. Mais la distance qu'il y a entre notre état et la personne parfaite de Christ, c'est la grâce. Je dirais, c'est pour ça que Jésus a dit « Ceux qui ont péché beaucoup aimeront plus ». Et vous savez, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre un petit pécheur et un grand pécheur, c'est que la distance qu'il y a entre eux et Dieu est peut-être plus grande. L'un est peut-être plus proche de Dieu que l'autre, mais celui qui est loin, il est quand même proche de Dieu parce que la grâce pourvoit ses manquements. Donc en fait, on est tous au pied du trône de la grâce, en réalité. Et ça, c'est la justice de Dieu. Et c'est en cela que Dieu ne fait exception de personne. Il accueille tout le monde. Et ça, on doit avoir ça à l'esprit alors que nous vivons dans cette existence. Et donc, les gens disent, voilà, les disciples, cette parole est dure à entendre. Le mot, là, sclérose, parle de quelque chose d'intolérable, quelque chose qui m'agresse, qui m'offense. Mais la personne qui n'est pas humble n'accepte pas d'être offensée. Mais lorsqu'on est devant Dieu, oui, des fois, on est offensé. Même devant quelqu'un de spirituel, on peut être offensé. De la bonne manière, c'est-à-dire, ça m'agresse, et en même temps, j'ai tort. Et donc, je m'humilie devant ce qu'est la vérité. Si ça ne nous agressait pas, il n'y aurait peut-être pas forcément de repentance non plus. D'accord ? C'est pour ça que la parole de Dieu est comparée dans l'Épître aux Hébreux, en chapitre 4, non pas à du coton et à de la ouate, c'est une épée à double tranchant. D'accord ? Donc, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui sépare ce qui est l'âme et de l'esprit, et on a du mal à accepter ça parfois, et seule l'objectivité que donnent les Écritures et l'humilité et la foi nous permet d'accepter ce processus voulu par Dieu. Et donc, la parole de Dieu nous aide à regarder le passé avec le regard de la foi et d'une certaine manière avec le regard de Dieu. Et alors que je suis justement dans l'étude de l'Épître aux Hébreux, on voit ça de façon très particulière dans l'Hébreux 11, où tous les héros de la foi du passé nous sont décrits en vertu de ce que Christ a fait, c'est-à-dire que leurs péchés ne sont pas mentionnés. Et donc, on a presque l'impression qu'il y a du mensonge dans Hébreux 11. D'accord ? On se dit, mais attends, Samson, un héros de la foi, Abraham, un héros de la foi, David, le meurtrier, mais oui, Barak, qui était d'une certaine manière un peu, de ce qu'on peut dire de façon familière, une poule mouillée, eh ben oui, Barak est un héros de la foi, malgré le fait que lorsqu'on lit le livre des juges, c'était une poule mouillée. Mais ce qui manquait à Barak, Christ a accompli pour lui ce qui manquait à la perfection, grâce à l'œuvre de la croix. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'un héros de la foi, c'est quelqu'un qui est un héros construit par Dieu, en fait. C'est Dieu qui fait de nous des héros et qui nous voit comme des héros. Et en 2 Corinthiens 5, je rappelle, versets 16 et 17, « Maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair », donc ça, c'est le présent. « Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, en fait, les Écritures éclairent notre passé, mais éclairent aussi notre présent. Et ça nous aide à marcher par la foi, et ça nous aide aussi à voir les autres avec le regard de la foi, et à voir les possibilités qui nous sont offertes par Dieu. C'est pour ça que je vous avais parlé de la vie de Joseph, qui lui avait bien compris ce qu'était l'œuvre accomplie, ce qui fait qu'il a pu exprimer l'œuvre accomplie en Jésus-Christ auprès de ses frères, mais il se l'était approprié aussi, cette œuvre accomplie. C'est-à-dire qu'il avait reçu une vision, cette vision ne s'accomplissait pas encore, mais il savait qu'elle allait s'accomplir. Et c'est pour ça qu'il a vu tous ses malheurs comme étant en réalité le résultat de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte, et le psalmiste en psaume, je ne me rappelle plus le psaume, je l'ai noté la semaine dernière, mais le psalmiste lui-même, au psaume 105, verset 17, il est dit, « Il envoya devant eux un homme, devant eux c'est la famille hérité d'Abraham, Joseph fut vendu comme esclave. » Voilà. Donc, il y a le mal qui est fait par l'homme, mais derrière, c'est Dieu qui envoie un éclaireur. Et cet éclaireur illuminait de son existence tout son entourage, parce qu'il était éclairé par la parole de Dieu, parce qu'il était le dépositaire de cette parole, il la vivait par la foi et ça avait un impact. Et c'est pour ça que nous sommes la lumière du monde aujourd'hui. Nous pouvons être la lumière du monde à nos travails, on peut être la lumière du monde devant les anges et les démons. On peut être la lumière du monde dans notre société, dans nos familles, devant nos ennemis, auprès de nos amis. Mais on a la possibilité d'éclairer notre entourage, de nous-mêmes être éclairés, parce que Dieu nous éclaire par sa parole et parce qu'il est notre éclaireur. Et puis, il y a la vision de l'avenir. Et là, je vais m'attarder un petit peu plus sur ce sujet aujourd'hui, parce que encore une fois, il faut prendre garde un petit peu des temps dans lesquels nous vivons. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans des moments importants, là aussi de l'histoire de l'Église d'ailleurs, si on l'étudie un petit peu en détail, on s'aperçoit que le diable s'arrange toujours, quand Dieu est à l'œuvre, de semer de la confusion. Et la confusion va faire que les gens vont être préoccupés de certains sujets et passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. C'est classique. C'est classique. Et comme le diable est un voleur de temps, les gens vont passer leur temps à s'engager dans des combats qui ne sont pas les bons combats. C'est pas le bon combat de la foi. Vous savez, en Apocalypse 13, versets 15 à 17, il est parlé de l'image de la bête, il est parlé de cette image qui va parler. Il est dit que les petits et les grands, donc vous voyez, c'est pas que les nantis, parce que parfois on a toujours, dans ces théories du complot qui se propagent sur Internet, c'est toujours les grands qui sont derrière. Mais non, la Bible est claire, hein, même les petits vont être séduits. Et donc faisons attention si on pense, nous, être à l'abri, parce qu'on n'est pas riche et qu'on n'est pas des grands. Petits et grands, riches et pauvres, vous voyez, il n'y a pas que les riches, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite et sur leur front. Intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, le monde entier va être séduit par la puissance du malin. C'est pas des gens contre d'autres, c'est toute la population en réalité. Le diable veut drainer des milliards de gens en enfer. C'est son objectif. Et qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Et la pauvreté, ou le fait qu'on soit petit, le fait qu'on ne soit peut-être pas très éduqué, qu'on ne soit pas un grand de ce monde, ne fait pas de nous des innocents. D'accord ? Je veux dire, si nous étions grands, peut-être que nous ferions nous aussi des choses que les grands font. Et alors évidemment, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau, nous faisons partie maintenant de l'Église, mais c'est là où nous ne devons pas nous tromper de combat, parce que sinon, on peut même s'opposer au plan de Dieu. C'est-à-dire que d'un côté, on ne doit pas être fataliste, comme je disais la semaine dernière, et en même temps, Dieu nous a prévenu que ça va aller de mal en pis. Donc la question est, quel est mon rôle devant cette situation ? Ça ne sert à rien d'être un Don Quichotte devant des moulins à vent. D'accord ? Parce que le vent tournera, les moulins resteront, et Don Quichotte, lui, il sera empalé par par une pale du moulin. Je veux dire, c'est pas le bon combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés qui sont dans les lieux célestes. Et donc, nous avons besoin de vraiment nous attacher aux Écritures et d'essayer de discerner quelle est la volonté de Dieu et quelle est la pensée de Dieu. Vous savez, j'avais terminé mon message, ou presque, la semaine dernière, en parlant des cartes bancaires, vous savez, avec l'histoire de ceux qui auront la marque de la bête, pourront plus acheter ni vendre, etc. Et ça a commencé, et je veux dire, voilà, le système bancaire fait que ce sera de plus en plus difficile de pas être dans le système. Lorsqu'il y aura plus d'espèces d'argent liquide, et que des systèmes électroniques, chrétiens ou pas, on pourra toujours se plaindre, mais il faudra faire avec, ou alors vous ferez une grève de la faim, hein, et puis vous direz que vous êtes martyr parce que vous ne voulez pas rentrer dans le système de ce monde. Ce que je sais, c'est qu'in fine, de toute manière, on ne sera plus là. Hein. Si au niveau eschatologique, nous croyons que nous allons être enlevés avant le règne de l'Antéchrist, oui, nous allons peut-être voir le début et la préparation de ce règne. Si par exemple l'Antéchrist, durant cette période de 7 ans, doit se faire adorer comme le vrai Messie à Jérusalem dans un temple, il se peut très bien que nous voyons le début de la construction du temple. Hein? Et c'est pas parce que nous voyons le début de la construction du temple que l'on va poser une bombe sur le chantier pour éviter l'avènement de l'Antéchrist. Je veux dire, c'est pas notre combat, d'accord ? La chose va arriver et... Alors, on ne se réjouit pas du mal qu'il va y avoir sur la terre, bien entendu. Mais en même temps, pour nous, c'est une bonne nouvelle, de toute manière. On sait où on en est. Ça veut dire qu'on est encore plus proche de l'enlèvement et de l'éternité dans la présence de Dieu. Donc, il ne faut pas vouloir une chose et en même temps lutter contre cette chose-là. Il ne faut pas penser une chose et penser son contraire. À un moment donné, il faut dire, voilà ce que dit la Bible, et puis le reste, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais moi je sais où je vais. Et pendant ce temps-là, parce que je sais où je vais, bah, sur le chemin qui est le mien, et bah, le long de ce chemin, j'essaye d'accomplir le plan de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et donc le temps que passent les gens à lire des bêtises, à s'échanger des avis, où ils y connaissent rien, où ils n'ont aucune preuve, parce que une chose qu'il faut savoir dans les rumeurs, c'est qu'il y a très rarement les sources. Et s'il y en a une, c'est l'avis d'un seul, qui, comme par hasard, évidemment, est seul au monde. Une chose aussi qu'il faut savoir, ne rentrons pas dans la notion, vous savez, du martyr. C'est pas parce que quelqu'un est seul contre tous qu'il a raison. Et c'est pas parce que tout le monde est... C'est pas dire que la majorité a raison non plus, d'ailleurs. En fait, on n'en sait rien. D'accord ? Mais ne choisissons pas, nous, le paradigme qui nous plaît. Hein, le paradigme, c'est les minorités, moi je les soutiens. Ah non, mais il y a des minorités qui ont tort. C'est pas parce qu'on est minoritaire que l'on a raison. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on a raison. C'est pas parce qu'on n'est pas un grand de ce monde qu'on a raison, etc., etc. Donc, nous avons, nous, besoin, dans l'Église, de réaliser que on n'évalue pas les choses en fonction de ces critères-là. Dans l'Église, il n'y a ni riche ni pauvre. Il n'y a ni noir ni blanc, ni homme ni femme. C'est qu'en réalité, on va au-delà. C'est qu'on fait tout pour regarder les choses en Christ. Et en Christ nous sommes, et en Christ on essaye d'inviter les gens à nous rejoindre. En Christ. Parce que la solution à tous les complots, au péché, à tout ce qui peut être dit, sans parler de complot, mais même la haine qu'on voit en permanence en ce moment, je veux dire, c'est Christ la solution. Et on le sait. D'accord. Donc faisons attention de pas de se tromper de combat. Je disais qu'il y a aussi des combats qui eux peuvent être graves et qui sont pas eux, des mensonges. Ce sont des choses avérées, vraies. On a eu une réunion samedi en 8 et où on parlait un petit peu des nouvelles lois qui vont peut-être être votées. Elles ont été en partie votées, mais tout le processus démocratique n'est pas à son terme encore. Il y a encore des votes qui doivent avoir lieu, mais quand on voit qu'il va y avoir des chimères qui seront autorisées bientôt, qu'est-ce qu'une chimère ? C'est, si je me trompe pas et si ma mémoire est bonne, c'est qu'en fait on va pouvoir mettre des cellules humaines dans des animaux pour fabriquer des organes qui seront plus compatibles avec les êtres humains. Ben ça va être autorisé dans quelques temps si la loi passe. Si la loi passe, une dame qui est enceinte d'un enfant de 9 mois, si elle est en détresse psychologique, elle aura le droit d'avorter. 9 mois. D'accord ? Eh bien, ça, c'est peut-être un combat qu'on doit mener, en tant que citoyen, j'entends. D'accord ? Parce que après, c'est pas forcément le combat de l'Église de faire que ça, encore une fois. Mais en tant que citoyen, là, oui, ce sont pas des mensonges, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui sont vraies. Là, il y a du sang qui coule. Et là, nos autorités, les grandes de ce monde qui sont censées nous représenter, auront à répondre devant Dieu. Et ça, c'est pas des accusations mensongères, ce sont des faits, selon les Écritures. C'est-à-dire qu'ils ont été mis à cette place par Dieu et ils seront redevables devant Dieu de toutes les décisions qui sont prises. Et la justice de Dieu sera rendue. Et on doit avertir les autorités qu'elles auront des comptes à rendre devant Dieu, même si devant la masse aujourd'hui, elles ne rendent pas de compte. Je veux dire, cette proposition de loi qui a été faite là, sur cet amendement, c'est un amendement concernant l'avortement à l'âge de 9 mois. Ça a été proposé à minuit, en catimini, fin juillet. D'accord ? C'est un peu comme aux Pays-Bas, où ils veulent retirer la notion, la civilité, le genre sur les papiers d'identité. Ça s'est fait pareil en plein milieu de l'été, en catimini. Et donc dans 2 ou 3 ans, je ne sais plus, sur leur passeport ou sur leur carte d'identité, il y aura marqué le nom de la personne, son prénom, et on ne saura pas si c'est, à part la photo, et encore, on ne saura pas si c'est un homme ou une femme. Le prénom aussi peut nous aider parfois, mais ce ne sera même pas sûr. Et alors on arrive à des aberrations, puisque comme par hasard, non par ailleurs je veux dire, on autorise les gens à changer de sexe. Et ceux qui ont changé de sexe, qui ont voulu, par exemple, ils étaient hommes, ils voulaient devenir femmes. Chose qui n'est pas arrivée, puisque de toute façon, les gènes restent les gènes. Ils ont des gènes masculins. Mais en tout cas, ils ont l'apparence d'une femme. D'accord ? Ils ont été transformés. Eh bien, eux, ils se plaignent, parce qu'ils disent, mais nous, on a lutté pour affirmer notre féminité. Et nous, on veut ça sur la carte d'identité. Donc, on s'aperçoit que on essaie de plaire à tout le monde, mais au bout d'un moment, ça devient impossible. Pourquoi ? Parce que toutes les minorités ont des fois des besoins contradictoires. Et donc, l'homme, en fait, s'enfonce dans des trucs... Voilà, c'est sans fin, si vous voulez. Et même, la tenante de la théorie du genre, c'est dans les années 70, son premier ouvrage, Judith Butler, elle s'appelle. Moi, j'appelle ça le djihad butlérien. Parce que, pour ceux qui ont lu Dune, le livre de science-fiction, il y a un djihad butlérien parce qu'il y a une femme qui, à un moment donné, se révolte, et elle s'appelle Butler. Et c'est incroyable, ça a été écrit dans les années 70 aussi. Et donc, elle organise, c'est un livre de science-fiction, hein, elle va sur toutes les planètes, et puis il y a des holocaustes partout. Et en même temps, cette femme, la Judith Butler, a écrit ce livre pour parler de la théorie du genre, et qui aujourd'hui est vue comme une vérité. Et il faut savoir une chose aussi, et ça peut vous aider à discerner, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui, j'espère que ça rechangera, où les sciences sociales ont pris le pas sur la communauté scientifique. C'est-à-dire que la théorie ou ce que je veux est plus important que la réalité et les faits. Tu te sens homme, c'est plus vrai que ce que tes gènes disent. C'est ça, en fait, les sciences sociales qui se sont imposées. C'est t'as un problème, c'est la faute à maman. On essaye de théoriser les choses et ce qu'on croit, ce qu'on veut croire, on l'impose même si c'est contre les faits. Et donc en permanence, on essaie on décline des théories et ça peut amener des choses. Par exemple, il faut avoir des faits, d'accord. Les premiers, je dirais, enfants qui ont changé de sexe, c'était deux jumeaux en Australie. Ils avaient 8 ans. On leur a changé le sexe. Je ne sais plus si c'est les deux, mais il y en a un des deux, en tout cas, qui s'est suicidé. Je me demande si c'est pas les deux, une fois devenus adultes. D'accord. Alors ça fait pas une statistique. Mais je veux dire, on continue quand même. C'est-à-dire qu'il y a pas... là, il n'y a pas le principe de précaution. Il y a deux femmes aux États-Unis là qui ont eu des enfants par insémination artificielle. Et qui veulent changer le sexe de leur garçon en disant mais nous on est les mamans et on sent qu'il est pas à l'aise dans sa peau, il jouait toujours avec des jeux de filles quand il était petit et donc ils veulent lui faire changer de sexe. Il y a 4 hôpitaux aux États-Unis qui changent les sexes des enfants aujourd'hui. C'est-à-dire, là il y a des choses vraiment horribles qui se passent. C'est pas on n'est pas dans le complot là, d'accord? On n'est pas dans des théories fumantes. Et donc, il y a des gens qui en permanence sont en train de se battre sur les vaccins, les masques, etc., qui essayent de diviser des fois même le corps de Christ, au lieu de s'unir et de prier pour des choses qui, elles, sont avérées. Et je crois, moi, que la prière du juste, elle est puissante et elle peut changer les choses. Que les gens réalisent que ce qu'ils mettent en place n'a pas de sens. On sait qu'on va ça va aller de mal en pis. Et en même temps, moi, je crois qu'il peut y avoir des réveils spirituels, sporadiques et géographiques. Et pourquoi pas en France, d'accord? Parce qu'en même temps, je sais que nous avons un Dieu qui veut sauver. Donc vous voyez, on est à la fois, il ne faut pas être défaitiste. Et en même temps, on laisse à Dieu la souveraineté. Et on accepte d'être dans ce monde parce que Dieu nous y a mis dans ce monde. Et donc Rome, c'était Rome, le Moyen-Âge, c'était le Moyen-Âge, la Renaissance, c'était la Renaissance. Et bien nous, on est là. Et pourtant, et ben, nous croyons Dieu et nous espérons grâce à l'espérance que nous donnent les Écritures. Et ne vous inquiétez pas, la parole de Dieu est claire sur les dirigeants. Ils auront à rendre compte. En Ézéchiel 30, versets 22 à 26, il est écrit, c'est Ézéchiel 30, versets 22 à 26, je lis, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à Pharaon, vous voyez, c'est un dirigeant, roi d'Égypte, et je lui romprai les bras, celui qui est en bon état et celui qui est cassé. » Et je le ferai tomber l'épée de sa main. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et je mettrai mon épée dans sa main, je romprai les bras de Pharaon, et il gémira devant lui comme gémissant les mourants. Ce qui est impressionnant, là, pour vous montrer comment Dieu utilise les nations. Nous, imaginons, c'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est le cas, mais imaginons. Imaginons que nous soyons comparables dans notre pays à Égypte et des dirigeants qui soient comme Pharaon. Là, contre les Égyptiens, quelle nation Dieu a utilisée? Il n'a pas utilisé Israël, il a utilisé Babylone. Que je sache, Babylone n'est pas un exemple de piété. C'est pas une nation qui marchait avec Dieu. Spirituellement, ils étaient sans doute pas mieux que les Égyptiens. C'est-à-dire que ne croyez pas que Dieu ne peut pas utiliser ce que nous on voit comme des gens pervers, des nations inférieures à nous, des gens qui n'y arriveront jamais. Détrompez-vous. Dieu peut utiliser même des nations qui sont ennemies de son nom, mais il peut l'utiliser quand même contre une autre nation qui a fait pire ou qui a besoin d'être corrigée selon son plan et selon sa souveraineté. C'est-à-dire que ça soit sur le long terme ou sur le court terme, Dieu, c'est celui qui s'occupe de la géopolitique. C'est le Dieu qui va s'occuper de toutes ces choses-là. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur la réalité de ce monde, mais moi je sais que justice sera rendue. Justice sera rendue. Et Ésaïe 24, versets 21 et 23, à 23, il est dit la même chose. « En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. » Donc là, ça parle des principautés invisibles, la guerre spirituelle. « Et sur la terre, les rois de la terre. » C'est qu'il les châtira. « Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. » Et on peut lire comme ça plein d'exemples dans les Écritures. N'oublions jamais, parce que c'est vrai que devant le mal que l'on voit, ou les suspicions de mal, il y a une colère qui peut monter, parce qu'il y a de l'injustice. Mais, in fine, parce qu'on a une vision de l'œuvre accomplie. Pour le futur, justice sera rendue. Et moi, je ne vais pas exercer ma justice en attendant, même si je sais que... Parce que ce n'est pas ma place, Dieu ne m'a pas placé à l'endroit qu'il faut pour rendre la justice. Mais par contre, il m'a placé dans le corps de Christ. Il m'a placé en tant que Français en France, en région parisienne. Et là, ici, tout ce qui est sous mes pieds, d'une certaine manière, m'appartient. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je peux marcher par la foi. Je peux conquérir Canaan. Dans le pré carré qui est le mien, ma petite vie, parmi 7 milliards ou 8 milliards d'habitants, c'est pas grave. Moi, je suis très petit, mais Dieu est grand. Je suis très petit, mais Dieu est grand. Elle est là notre espérance. Vous voyez, ne nous trompons pas de combat et ne pensons pas que Dieu ne va pas s'occuper de ce dont il doit s'occuper. N'essayons pas de remplacer Dieu alors que nous n'avons pas les preuves et tous les éléments de tout ce qui se trame. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe en réalité. C'est une guerre invisible déjà, et puis c'est une guerre aussi spirituellement, j'entends, cachée. C'est-à-dire que je suis pas là pour écouter les conversations, les motivations du cœur. Je n'en sais rien. Il y a que Dieu qui sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Vous avez une personne qui prend une décision. Elle peut avoir des intentions malhonnêtes, ou elle peut se tromper, ou elle peut avoir raison. Vous comprenez? Si j'essaye, moi, d'être l'arbitre de tout ce qui se passe dans le monde, mais mes amis, je dors plus la nuit. Et puis en plus, au bout d'un moment, on en veut à Dieu, parce qu'on veut faire quelque chose, on veut bouger les choses, alors voilà, on tape des SMS et on fait des circulaires, etc. Et puis les choses ne changent pas. Vous inquiétez pas, elles ne changeront pas. C'est pas par ces moyens-là que Dieu va se glorifier. Et donc, Dieu va pas bénir. Et donc, du coup, et là, alors là, je m'inclus dans cet avertissement. C'est pour ça que les pasteurs, comme les dirigeants politiques, les rois de la terre, mais les dirigeants du peuple de Dieu, ont une responsabilité très importante aussi. En Ézéchiel 34, versets 8 à 11, il est écrit ceci. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis, à cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne laisserai plus paître mes brebis et ne se paîtront plus eux-mêmes, etc., etc. » C'est-à-dire que le rôle des responsables dans l'Église, c'est pas d'essayer de prêcher leur point de vue. Évidemment, on est tous faibles. À partir du moment où vous prêchez des milliers d'heures, à la fin d'une vie, vous avez dit des bêtises. C'est évident. Moi, je peux vous assurer que dans cette pièce, celui qui a dit le plus de bêtises, c'est moi. Parce que c'est moi qui parle le plus. D'accord ? C'est statistique. Donc, je me fais pas d'illusions sur moi-même. Mais je parle, et même, en même temps, j'ai un Dieu de grâce qui m'aime. D'accord ? Et il connaît mon cœur, c'est ça le plus important. Ce dont je dois prendre soin, c'est mon cœur. Après, que je fasse des erreurs, j'en fais. Mais la seule chose, c'est que quand même, globalement, je dois faire attention à ce que je dis devant ce pupitre et devant vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez retenir ? Est-ce que je parle vraiment de la part de Dieu? Est-ce que je donne aux gens les outils pour affronter les difficultés de la vie? Ou est-ce que je vais seulement donner mes opinions? Alors, vous avez des pasteurs qui peuvent faire de la politique, vous avez des pasteurs qui peuvent faire de l'argent, et vous avez des pasteurs qui peuvent chercher une réputation, être connus, vous avez des pasteurs qui veulent contrôler les foules, il y a plein de motivations. Alors que j'ose espérer que ce que j'essaye de vous donner, ce sont les éléments qui vous aident à marcher dans la piété. Ça ne va pas forcément vous donner une vie heureuse, mais ça, ce n'est pas mon problème, c'est entre vous et Dieu. Dieu ne nous promet pas une vie heureuse. On n'est pas des marchands de rêves, d'accord ? On essaie de communiquer une vision, la vision de l'Éternel sur l'existence, la vision de l'Éternel sur chacune de nos vies, la vision de l'Éternel sur ce qui se passe dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Parce que il se peut que nous soyons dans les derniers temps. Et si nous le sommes, on n'est pas dupes. 2 Timothée 3, versets 13 et 14, nous dit exactement... Alors, il y a beaucoup de versets, hein, je vous préviens. Vous aurez la lecture chez vous. 2 Timothée, chapitre 3, versets 13 et 14. « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure... » Alors, il s'adresse à un pasteur, hein, Paul, il s'adresse à Tite. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. » est reconnue certaine. Vous voyez, la parole de Dieu, elle est reconnue certaine. Et c'est ça qu'il faut apprendre. On n'est pas obligé d'apprendre toutes les nouvelles de tout ce qui se passe. T'as vu ça, t'as vu ci, t'as vu ça. Et on n'a jamais de preuves. Non, reconnue comme certaine, sachant de qui tu les as apprises. Parce que quand on va sur Internet prendre glaner plein d'informations, on ne sait pas de qui on les apprend. Si vous regardez un petit peu les associations qui diffusent certaines informations et que vous regardez leurs sources, c'est pas très édifiant. Et pourtant, beaucoup de chrétiens s'y associent. De qui sont les sources ? Nous espérons avoir la pensée de Christ. Nous espérons prêcher la parole de Dieu. Et donc, on enseigne les choses et on reste ancré dans les Écritures parce qu'on sait de qui nous avons appris. Alors, il faut les apprendre de la part de bons enseignants, mais on espère derrière que c'est Dieu qui nous enseigne, que c'est le Saint-Esprit qui nous communique la vérité. Et c'est pour ça que ce livre doit rester dans nos mains. Ça doit être notre arme, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu selon Éphésiens. Parce que les églises aussi se détournent de la vérité. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez entre guillemets des églises qui bénissent des mariages homosexuels sous prétexte que ça se fait. Comme en France c'est autorisé, c'est pas illégal, donc on bénit quelque chose qui n'est pas illégal pour que ces pauvres petits-enfants puissent marcher sous le regard du Seigneur. Ils le sont sous le regard du Seigneur, je vous le garantis, mais j'aimerais connaître ce regard-là. D'accord ? Parce que c'est une abomination. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Et ça, peut-être qu'on va nous persécuter de penser comme ça. Mais ça, c'est pas grave. Parce que c'est pas une théorie du complot, c'est le mal qui s'installe dans nos sociétés. Le renversement des valeurs. Après, de la même façon, on va dans certaines églises bénir un croyant qui se marie avec un non-croyant. Mais il s'aime, il ne faut pas être sectaire. Je regrette, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible et ce qui est écrit dans 1 Corinthiens. Ce n'est pas moi. C'est Dieu, au travers de Paul, qui a dit comment les ténèbres peuvent s'associer avec la lumière. Et donc ça, il faut garder ses convictions. Et là, si on nous empêche de prêcher ça, ou si on nous force à faire certaines choses, ça, oui, c'est un complot contre la vérité. Ça, c'est oui de la persécution. Mais pour l'instant, nous sommes encore libres de le dire. Et donc, moi, je le dis. Et même si c'est enregistré, et même si on retrouve ce message dans 10 ans, alors que ce sera peut-être interdit et qu'on me recherche parce que j'aurais dit ça, eh ben, c'est pas grave. Parce que ça, c'est la vérité. C'est factuel. C'est pas un mensonge que je dis. Parce que voilà ce que dit la Bible. De la même manière, on va pas faire commettre adultère à quelqu'un parce qu'il va se marier avec quelqu'un qui a divorcé pour des mauvaises raisons. On va pas célébrer une bénédiction de ce type-là. Si les gens veulent se marier, ils se marient, c'est pas l'église qui marie les gens, c'est la mairie. De toute façon, on les interdit pas de se marier, ils font ce qu'ils veulent. Mais on va pas devant Dieu dire, Seigneur, bénis cette union alors que ce n'est pas dans le plan de Dieu. À un moment donné, il faut peut-être s'affirmer au niveau de la vérité, et c'est ça qui va faire qu'il y aura la puissance de Dieu dans les églises et qu'il y aura la piété qui va régner. On ne peut pas demander la puissance de Dieu si on fait des compromis avec la sainteté. On a besoin à un moment donné de prendre sa croix et de dire « je pense mal ». Et si les gens ont pratiqué certains péchés et qu'ils se repentent, ils sont pardonnés. Et en même temps, il y a des conséquences par rapport aux péchés. Elles sont ainsi. Ça s'appelle la responsabilisation. On est responsable de ce que l'on fait. Et donc la grâce, c'est pas être bisounours et puis de dire « bah voilà, allez, on fait comme si de rien n'était ». Absolument pas. On est ancré dans les Écritures. Et peu importe le jugement de certains, et peut-être que certains, ça peut ne pas plaire aujourd'hui, et ils partent, mais moi, ce que je crois, c'est ce que disent les Écritures. Et on a besoin de cette parole qui tranche, qui nous permet d'aller dans l'avant. Vous savez, faut lire la Bible, hein, Matthieu 5, 32, Jésus a dit « Moi, je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Matthieu 19, 9, « Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. » Et donc, plus le temps va passer, plus on verra ce genre de situation. Mais on ne laissera pas entrer le mal, je ne vais pas dire même dans l'Église, mais dans nos cœurs. On a la liberté de penser ce qu'on veut. On peut être persécuté, mais la liberté, elle est là. Elle est dans nos pensées, elle est dans notre cœur. En réalité, on est libre. On est libre. La vie sera peut-être pas facile, mais on est libre de penser ce qu'on croit. D'accord? Parce que la Bible est la lumière du monde, et nous voulons être la lumière du monde, autant que faire se peut. Et c'est pour ça que Jésus nous a avertis. Matthieu, je crois que je l'avais cité lors du premier message il y a deux semaines, mais chapitre 24, verset 6, il est dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. » Vous voyez le point ? C'est que d'un côté, il va y avoir des bruits de guerre. C'est même pas des guerres d'ailleurs, c'est des bruits de guerre. Mais les bruits de guerre, ça fait peur déjà. Et il dit, gardez-vous d'être troublés. Alors, encore une fois, ça ne s'adresse pas à nous directement là. Hein. Ça parle aux Juifs juste avant le retour de Christ. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Vous savez, c'est très facile de croire n'importe qui. C'est facile de crier avec la meute. Mais nous qui voulons marcher dans la piété, faisons attention à une chose, et je terminerai sur ce point-là. Je dirai d'autres choses mercredi soir, mais là je vais terminer sur ce point-là, parce que pour moi c'est un péché très grave que nous risquons de commettre. En Proverbe 26, 13, il est écrit ceci. « Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. » Je me rappelle une fois, pasteur Chaleur, dans un autre contexte, il avait parlé de ce verset, il disait « Il n'y a jamais de lion dans les rues. » Les lions, ils sont à la campagne, ils sont dehors, ils rentrent pas en ville, il n'y a pas de lions dans les rues. Donc en fait, pourquoi le paresseux, il dit ça? Parce qu'il veut pas aller travailler. Et donc, il se donne une bonne excuse. Donc il dit, voilà, il y a des lions dans les rues. Vous savez, quand on dit n'importe quoi, c'est des fois une manière de se protéger. C'est des fois une manière de protéger son péché. Et là, c'est pas de la paresse dont je parle, quoique. En tout cas, ne soyons pas paresseux pour étudier les Écritures. Parce que si on est paresseux pour étudier les Écritures, peut-être qu'on croira qu'il y a des lions dans la rue. Parce que ce sera dit sur Internet. Parce que quelqu'un me l'aura dit. D'accord ? Et puis du coup, je sortirai pas. Faisons attention. Moi, dans les Écritures, il m'est dit qu'il n'y a pas de lions dans les rues. Que c'est le paresseux qui dit ça. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pasteurs qui disent n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étudient pas les Écritures, ou ils refusent d'y croire. Ils préfèrent croire autre chose. Mais ne soyons pas paresseux et disséquons les Écritures. Et venons à Dieu en disant, Seigneur, voilà ce qui se passe dans ce monde, éclaire-moi. Je veux ton conseil à toi. Et je veux pas un conseil subjectif, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. C'est Dieu m'a éclairé selon les Écritures. Dieu m'a conduit selon les Écritures. Il m'a devancé selon les Écritures. Il m'a illuminé selon les Écritures. Il a séparé ce qui est l'âme de l'Esprit selon les Écritures. La parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. Je ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si je ne suis pas rempli de la parole de Dieu. C'est impossible. Alors, on a tous des dons différents, de la mémoire différente, de la sagesse différente, mais les dirigeants sont là pour conduire le troupeau sainement. Les brebis ont besoin de bergers, et les bergers doivent respecter le troupeau, afin de marcher dans la vérité ensemble, unis, contre un monde qui est vrai uni contre Dieu. On n'est pas dupes. Et c'est comme ça qu'il va y avoir la communion dans le corps de Christ, qu'on va pouvoir résister ensemble, on va pouvoir prier ensemble, intercéder ensemble. Parce que sinon, on ne sera pas réconforté. On a besoin d'être réconforté par les Écritures, guidé par les Écritures, vivifié par elles et discerné. Vous savez, en Tite, chapitre 1, verset 6, là aussi Paul s'adresse à un pasteur. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, s'il s'y trouve quelque homme, c'est les qualificatifs pour être un ancien ou un pasteur, un dirigeant. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Et c'est là où je vais terminer là-dessus, sur ce point, la rébellion. Regardez comment ça se passe. Vous savez, la rébellion, selon Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est comparable à quoi, pour ceux qui connaissent les Écritures ? À l'idolâtrie et à la divination. On voit ça dans 1 Samuel 15, lorsque Samuel va voir Saül, qui justement fait quelque chose, Saül, contraire aux Écritures, en pensant faire le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sacrifié un animal avant la bataille pour que le peuple soit rassuré, parce que Samuel le prophète était en retard. Et or, c'est Samuel qui, selon la loi de Moïse, avait le droit d'immoler un animal. Le roi n'avait pas le droit de le faire. La prêtrise et la royauté sont séparées depuis Saül, en fait, depuis ce moment-là. Et donc, parce qu'il a des bonnes idées, parce qu'il se croit spirituel, Saül, il n'envoie pas les hommes au combat comme ça, il dit « il faut faire un sacrifice, j'ai une bonne idée ». Le problème, c'est qu'il a désobéi. Et que dit Samuel ? C'est comme de l'idolâtrie. Et donc 1 Samuel 15, 23, la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, les différents bruits qui courent sur telle ou telle chose, sur la motivation de nos dirigeants, la motivation de telle ou telle personne, c'est parfois une manière déguisée, là je parle des chrétiens, une manière déguisée de se permettre d'être rebelle. Parce que la Bible est claire, elle nous dit qu'on doit être soumis aux autorités. Nous sommes d'accord. Sauf que dans le livre des Actes, et ça c'est vrai, il vaut mieux obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. L'inverse, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, merci. Parce que là, alors là, si je pars dans ce sens-là, ça va plus. Donc, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, mais dans quel contexte il en est parlé là ? C'est de partager notre foi. C'est pas une révolte contre l'impôt. C'est pas une révolte contre telle ou telle décision. C'est j'obéis à Dieu parce que je dois manifester le Saint d'Israël. Si on me demande d'adorer une statue, je vais pas le faire. Parce que là, pour le coup, j'obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais pour le reste, Jésus dit ce qui appartient à César est à César, qu'on paye nos impôts. Il y a peut-être trop d'impôts ? Oui, en tant que citoyen, etc., on peut faire des demandes à nos dirigeants. Mais ce n'est pas le combat de l'Église. Le combat de l'Église, c'est de se dire, nous, on confesse le nom de Jésus-Christ, et ça, vous ne nous l'interdirez pas. Vous pouvez nous l'interdire, mais là, nous, on ne s'interdit pas de continuer quand même. En assumant les conséquences. En assumant les conséquences. C'est-à-dire que les apôtres, ils allaient en prison. Ils n'ont jamais servi à se défendre avec les armes. Ils ont assumé, ils ont désobéi, mais ils sont restés soumis aux autorités. C'est-à-dire que quand on allait les chercher pour les prendre, ils se laissaient faire, parce qu'ils avaient désobéi à la loi. Donc ils restaient à la fois soumis aux autorités, tout en obéissant à Dieu, et ils payaient les conséquences. Vous comprenez ? Mais lorsqu'il s'agit de soi-disant désobéir à certaines choses, sous prétexte qu'on est spirituel, alors que ce n'est pas le combat de l'Église, là c'est un mensonge. Et là, c'est une manière, en fait, de se dire, comme ça vient du diable, toutes ces choses, eh ben moi, j'obéis pas. C'est une rébellion facile, là. Moi, ça me permet d'être insoumis. En parlant d'insoumis, d'ailleurs, alors, vous pouvez ne pas croire les chiffres que je vous donne, parce que moi aussi, je suis tributaire des recherches que je fais. Peut-être les gens mentent aussi. Donc, toutes nos sources peuvent être corrompues. Mais il y a un chercheur en ce moment qui est en train de faire des recherches sur sur le panel un peu des gens qui sont complotistes. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui croient dans les théories du complot sont à 47% des gens qui ne votent pas. Sinon, ils sont à 20-25%, j'ai plus les chiffres en mémoire, non, entre 15 et 20% de l'extrême droite, 15 à 20% de l'extrême gauche, insoumis justement. Donc si vous additionnez tout ça, ça fait quand même beaucoup de gens qui, de toute façon, rejettent le système dans leur mode de vie en permanence. D'accord ? Donc c'est un mode de vie, déjà. C'est ça qu'il faut savoir. Entre parenthèses, Daesh a fait circuler que le Covid a été inoculé exprès pour tuer des gens. D'accord ? Donc eux aussi se servent de ces théories-là pour répandre certaines choses. Là, ils se sont calmés, ils se font de l'argent avec le Covid. On vient de découvrir qu'ils ont fabriqué des masques qui n'étaient pas homologués, ils ont essayé d'en écouler 100 000 aux États-Unis, pour se faire, parce que c'est le moyen de se faire de l'argent, en fait. Donc, voilà le monde dans lequel on est. Faut savoir avec qui on s'allie. Faut savoir avec qui on est. Faut savoir avec qui on manifeste. Faut savoir avec qui on dialogue. Faut savoir qui nous croyons. Et vous pouvez avoir des ennemis qui ont raison sur certains points, d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, on ne sait pas. Mais faisons attention. Il y a des gens qui ont une propension à désobéir parce qu'ils se sont focalisés sur certaines choses qui révèlent en fait la nature de leur cœur. En Tite, chapitre 1, versets 13 à 16, Paul le dit clairement, Tite 1, 13 à 16. « Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, ça c'était les légalistes, et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Ceux qui n'ont pas confiance en Dieu se méfient de tout. D'accord ? Leur intelligence et leur conscience sont souillées, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'une bonne œuvre. Là, le mot rebelle, c'est incapable d'être persuadé et insoumis. C'est le mot, là, pour rebelle. Donc c'est intéressant de voir que nous, bien sûr, on croit dans la Bible, il faut être sous nos autorités, on va le dire. Mais en même temps, il y a le combat spirituel, il y a l'antéchrist qui arrive. Et à un moment donné, il y a de la confusion et on justifie notre rébellion parce que notre cœur est par nature rebelle. D'accord ? Il y a encore la chair en nous. Et là, on trouve une raison spirituelle de désobéir aux autorités. Alors, encore une fois, si c'est des choses vraies, enfin, après, il faut avoir du discernement, ça peut arriver, mais faisons attention de ce que nous pensons et faisons, et de nos sources, d'accord ? Parce que ça a toujours été, on a aussi, l'être humain, comme il veut être comme Dieu, il est toujours attiré par tout ce qui est mystérieux et caché. Et même dans le domaine religieux, l'apôtre Jean, lorsqu'il a écrit ses épîtres, il s'est opposé aux religions à mystère, c'est-à-dire le gnosticisme. Plus je connais des choses, plus je suis spirituel. Et vous savez, une des choses qu'il y a sur la calomnie, le principe de la calomnie, c'est qu'on a quelque chose et on dit « toi tu le sais pas, je vais te le dire ». Et donc le savoir caché nous rend important. Le savoir caché nous rend important. C'est intéressant parce que, en faisant des recherches, alors ça, honnêtement, je n'ai pas au courant. Il y a des gens qui imaginent, en fait, que vous avez entendu parler du chemtrails? Non. Bon. En fait, c'est, vous savez, quand il y a des avions qui volent dans le ciel, si le ciel est bleu, vous avez des traînées blanches. Alors, je connais pas exactement ça. Pourquoi? Enfin, je sais que c'est dû aux avions. Non, là, non, c'est pas ça. C'est un mensonge. C'est pas ça du tout. C'est pas les avions. C'est des produits chimiques que l'on déverse dans le ciel et ça retombe sur la population. Et il y a des millions de gens qui croient ça de par le monde. Alors moi, vous savez, je suis très pragmatique. Hein. Je me dis, bon, admettons, des fois, pour essayer de trouver pour penser correctement, admettons que la proposition soit vraie. Ok. Alors dès que vous, maintenant, hein, si vous voyez une traînée, cachez-vous. Mais ces gens qui font ça, ils vivent dans ce monde-là aussi. Ils vivent pas sur Mars. Donc ça veut dire qu'ils s'autodétruisent aussi. Je sais pas, hein, c'est une hypothèse. Parce que ça existe depuis longtemps, les traînées. Hein. C'est-à-dire, depuis que je suis tout petit, j'en vois. Hein. Non mais, vous vous rendez compte jusqu'où ça va ? Et encore une fois, science sociale, j'ai une idée, je crois que c'est vrai, la science explique d'où ça vient, mais non, ça j'y crois pas, c'est un complot. Parce que ce que je pense et ce que je crois est plus important que l'évidence. Alors vous allez me dire, mais nous les chrétiens on est un peu pareil, parce que les scientifiques croient dans l'évolution et les chrétiens n'y croient pas. Oui, mais moi, dans mes convictions, c'est pas une évidence l'évolution. C'est une théorie. Aussi. Donc c'est pas une science prouvée de A à Z. Alors, il y a des hypothèses, et encore une fois, moi je ne critique pas que la scientifique recherche, mais nous, nous avons la parole de Dieu, et nous croyons, selon l'Épître aux Hébreux, que la parole a été faite, que le monde a été fait par la parole de Dieu. Voilà, bah, nous y croyons, et nous croyons à cela. Et après, on verra bien. Je jette d'anathème sur personne, mais c'est une théorie, la théorie de l'évolution. Et donc, faisons attention, encore une fois, de un peu toutes ces... C'est un peu comme les anti-masques, hein, on les a analysés aussi, c'est pareil, c'est les mêmes statistiques en fait. C'est qu'on croit et on désire croire certaines choses. Alors, parmi les gens qui sont anti-masques, on les interroge, et ils sont 52% à croire aux Illuminati, pour ceux qu'on a entendu parler. Bon, en France, il y en a 27% qui croient quand même. Hein. Donc c'est quand même beaucoup, déjà. Ils sont 52% à voir un complot sioniste derrière tout ce qui se passe. Contre 22% de la population française, quand même. Et rappelez-vous, au début, alors qu'elle était encore ministre de la Santé, la ministre de la Santé d'origine juive, et son mari étant juif, a été accusée, justement, de prendre des positions en version de ce complot-là. Mes amis, c'est ce qui s'est passé au Moyen-Âge contre les juifs en Italie, et dans toute l'Europe pendant la peste noire. Il y a eu des bruits qui ont couru, que les juifs pratiquaient des rites sataniques et qu'ils voulaient tuer la population non-juive. Et donc, il y a des juifs qui ont été massacrés en masse pendant cette période-là, sur des théories du complot. Avec qui on s'allie? Et d'où sont les sources? Vous savez, la Bible est très claire. Exode 23, 1. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. C'est clair. En d'autres termes, en admettant, parce qu'il faut appeler un chat, si on nous donne des masques pour nous tuer, si on nous donne des vaccins pour nous tuer, si on fait, comme d'autres théories, c'est que le Covid a été là pour tuer des vieux, c'est ce qu'on disait au début, pour pas payer les retraites. D'accord ? Mais c'est pas simplement du Walt Disney de dire ça. Ça veut dire que des dirigeants le font sciemment, donc ce sont des criminels. Vous voyez, c'est une chose de croire dans la théorie du complot, mais à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout. C'est un peu comme j'étais gamin, on disait toujours, parce que là, le monde évoluait dans une mauvaise direction. Ah, j'entendais les vieux qui disaient, il nous faudrait bien une guerre. Hein? Ah, s'il y avait une guerre, ça ferait du bien. J'entendais toujours ça quand j'étais petit. Puis un jour, à table, une personne avait dit, mais tu veux la faire contre qui, la guerre? C'est qu'à un moment donné, il faut être concret. Tu veux te rebattre contre les Allemands? Tu vas aller envahir l'Angleterre? Il faut bien une guerre, mais contre qui? Il faut assumer les paroles que l'on donne. Et donc, si on croit dans la théorie du complot, ça veut dire que j'accuse tel dirigeant, j'accuse tel ministre, j'accuse tel groupe de vouloir nous tuer. C'est ça, la réalité. Et qu'est-ce que dit Dieu là-dessus? Dieu ne dit pas que ça n'arriverait pas. Ça n'arrivera jamais. Il dit qu'il faut des témoins. Il faut des preuves. Qu'on ne peut pas accuser quelqu'un sans témoignage, sans preuve. Et donc, c'est pas parce que plein de gens le disent que je dois le croire. Peut-être que c'est vrai, peut-être. Mais je ne suis pas, moi, en position d'être le juge de tout ça. Ou si je veux que ça soit jugé, je monte une assoche, je monte un combat politique, mais je fais ça en dehors de l'Église. Parce que, rappelez-vous, quand on étudie l'histoire de l'Église, guerre de religion en France, par exemple, 16e siècle, que s'est-il passé à cette époque, 16e, même 17e? Vous aviez des chrétiens persécutés, des protestants, hein, contre les catholiques. Et je schématise, mais quand on regarde l'Ardèche, tout le centre, le Dauphiné, le Grenoblois, toute cette, et jusqu'à la Suisse, toute cette région, certains chrétiens ont décidé de résister, de rester dans leur pays, de se réunir contre l'autorisation des autorités, dans des grottes. Hein, donc c'était l'église cachée, c'était un choix. Et d'autres ont fui aux Pays-Bas, à Berlin, en Suisse, en Amérique, en Angleterre. On peut imaginer des chrétiens qui discutent en disant « Mais toi tu fuis, t'es pas spirituel. Moi je reste là. » Et puis l'autre qui peut dire « Mais non, moi Dieu m'a ouvert les portes pour moi, qui es-tu pour me juger ?» Je veux dire, ça pouvait diviser l'Église aussi. Le problème c'est que chacun doit le faire en fonction de ses convictions. Si Paul lui-même a dit au niveau du manger, du boire et des nourritures sacrifiées aux idoles, chacun peut faire en fonction de sa conscience, il était en train de dire aux Corinthiens, ne jugez pas sur celui qui n'ose pas manger la viande sacrifiée aux idoles. C'est pas le sujet principal. L'Église consiste pas à discuter de savoir ce qui est bon à manger ou pas. Il dit par ailleurs, Paul, il n'y a pas d'idole de toute façon. Nous, on en a été délivrés, c'est vrai. On peut manger ce qu'on veut en réalité. On n'est pas lié à ça. Mais si c'est une pierre d'achoppement pour ton frère, t'en manges pas. C'est-à-dire qu'il y a des sujets dans l'Église qui doivent rester dehors de l'Église. C'est pas le sujet. Nous, le sujet, c'est Christ. Et donc, ces sujets-là amènent de la division. Tout comme on peut imaginer, encore une fois, pendant les guerres de religion, que certains chrétiens jugeaient les frères parce qu'ils partaient en Suisse ou ailleurs, en disant que c'était des poules mouillées. Qu'eux résistaient, c'était les vrais spirituels. Non, on ne juge pas. Chacun est responsable de sa famille, chacun est responsable devant Dieu de ce qu'il fait. Aller en Suisse, ce n'est pas un péché. Rester dans l'église du désert, ce n'est pas un péché non plus. Simplement, tu assumes tes choix et tu risques d'aller aux galères. Voilà, c'est tout. Et donc, ceux qui partaient pouvaient prendre les autres comme des fous parce qu'ils risquaient d'avoir leur famille détruite et d'être tués. Donc, ils étaient peut-être vus comme des gens trop spirituels. Et puis, les hyper-spirituels, soi-disant, pouvaient considérer que les autres, c'était des charnels. Non, ils ont eu à répondre devant Dieu, chacun avait à vivre ce qu'il avait à vivre. Donc tout ça pour vous dire, Exode 20:16, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Lévitique 19:16, « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. » Proverbe 24:28, « Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres ?» Et là, à la légère, c'est sans cause, gratuitement, d'une manière imméritée. C'est ça, la légère. J'accuse quelqu'un alors qu'en fait, c'est peut-être pas vrai. Et lorsqu'il est dit « voudrais-tu tromper par tes lèvres ?», le verbe « tromper », c'est « persuader, séduire et flatter ». Et donc, en tant que chrétiens, soyons vraiment prêts à vivre ce que Dieu veut que nous vivions, et pas ce que nous, nous croyons devoir vivre des fois. Que Dieu vous bénisse, et méditons là-dessus, et discernons les temps que nous vivons, et combattons le bon combat. C'est le combat de la foi.